Décryptualité, semaine 22, salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, commençons par le sommaire. France Inter, en participant au grand blabla des réseaux sociaux, on perd sa vie plutôt qu'on ne la gagne. Une interview menée par Christine Siméone.
Qui fait une discussion avec Adrien Klent, qui me paraît bien intéressante sur son livre, où il parle de choses plutôt fun, de logiciels libres, d'informatique libre en général, les réseaux sociaux alternatifs, la journée de travail de 3 heures seulement, et tout ça dans le contexte, donc c'est un roman, dans le contexte d'une élection présidentielle. Donc ça a l'air plutôt sympa, je pense qu'il va falloir que je mette la main dessus. Hein.
Le monde informatique, plaidoyer de l'open source français sur la souveraineté et le business, un article de Dominique Philippon.
Donc ça parle d'une enquête qui a été faite par le CNLL, où en gros ils ont demandé un petit peu aux entreprises d'informatique françaises comment ça allait. Il semblerait qu'elles demandent plus d'encouragement de l'institution française, des administrations françaises, pour utiliser du logiciel libre, pour utiliser des logiciels locaux, et arrêter de se baser sur des logiciels propriétaires américains, notamment. Ça pourrait être sympa de travailler avec des gens du coin.
Voilà, CNLL, on rappelle, c'est en gros le syndicat des entreprises du libre françaises. Lemonde.fr, ne confions pas à Facebook le pouvoir de rendre justice. Un article de Pierre Louette.
Une tribune, et donc c'est un spécialiste des médias qui parle de tout ça. On peut dire que ça tombe bien, parce qu'il y a plein de discussions qu'on a eues et qu'on aura sur le droit de parler, le droit de discuter, mais aussi la possibilité que les grands groupes ont de contrôler nos paroles et de nous bloquer. Et puis ça peut arriver à n'importe qui, hein, même des petites gens comme Donald Trump, de se voir couper la chic, parce que ça ne plaît pas, pour d'autres raisons. Donc là, il y a de quoi faire, mais on ne voudrait surtout pas donner le droit de rendre la justice à ces grandes entreprises. Pourtant, c'est largement le cas.
On a tendance effectivement à les rendre responsables de tout ce qui se passe sur leur plateforme. Et donc, de fait, c'est bien elles qui décident. ID News, Berne appelle les informaticiens à craquer le futur certificat Covid. Un article de Lorraine Mezo.
Alors, c'est une initiative qui me paraît intéressante. Il est question, avec la sortie, on espère, de l'épidémie du Covid, qu'on ait des moyens de montrer qu'on n'est pas un risque. Donc soit on a pris un vaccin, soit on a déjà eu la maladie et on considère qu'on ne l'aura pas à nouveau, à peu près. En tout cas, il faudrait pouvoir montrer patte blanche. Et là, pour mettre en place ce genre d'infrastructure, il faut de l'informatique, des logiciels. Et donc là, en Suisse, les logiciels seraient ou seront ou sont, je ne sais plus, mais libres. Et surtout, il y a une demande à ce qu'on vienne les tester et qu'on vienne un petit peu valider leur solidité. Donc voilà, c'est un appel. Venez essayer de craquer tout ça. C'est plutôt une initiative intéressante, risquée bien sûr, parce que il y aura peut-être des gens qui vont réussir à casser le système. Il vaut mieux maintenant voir s'il y a des failles pour les corriger le plus rapidement possible, pour essayer de vérifier que tout est bien en place avant l'ouverture officielle.
ZDNet France, Freenode est abandonné par plusieurs projets libres, dont Wikimedia et Ubuntu. Un article de Thierry Noisette.
C'est un prince couronné, soi-disant, coréen, qui a racheté l'entreprise officiellement de Freenode. Donc le réseau de discussion que beaucoup de gens dans la communauté du libre, dont moi, utilisent, l'April l'utilise, et effectivement, en faisant un peu main basse sur officiellement l'entreprise, eh bien il avait le moyen de contrôler beaucoup, beaucoup de choses. Donc les administrateurs du système se sont massivement enfuis et ont créé un autre système parallèle, LiberaChat, hein, sur lequel je suis passé avec plein d'autres gens. Plein d'autres gens, c'est des dizaines de milliers exactement. C'est plutôt sympa de voir qu'il y a un mouvement qui s'est fait comme ça, de plus ou moins concerté, parce que ça reste très décentralisé tout cela. C'est vraiment d'un commun accord que les gens ont dit « bah non, là on peut pas y aller ». C'est pas parce que le descendant des empereurs coréens nous a dit qu'il allait être gentil qu'il va l'être.
Effectivement, on en a parlé ces dernières semaines, hein, et notamment pour expliquer que la propriété d'une marque ou des ressources, en l'occurrence là les serveurs, etc., en fait c'était très important, même pour les projets libres. Et que cette propriété-là permettait d'avoir des ressources, d'être utilisées, et que quand on n'a pas cette marque, on est un peu coincé. Et pourquoi cette marque ? Donc ça va être un peu notre sujet de la semaine, on voulait continuer un peu là-dedans et parler de cette question de la notoriété, parce qu'une marque est importante parce qu'elle est connue. Mais en préambule, on va peut-être revenir sur notre podcast de la semaine dernière. On a eu une réaction sur Twitter de quelqu'un qui répond au pseudo de Primocorn, et qui n'a pas aimé le fait que je dise que Bitcoin, c'était de la connerie.
Oui, mais effectivement, attends, tu dis des choses, franchement, mais d'où tu oses parler comme ça, quoi.
Moi, je suis ouvert à la discussion sur Mastodon, donc pas sur Twitter. C'est quand même l'occasion de rappeler que tout ce qu'on dit ici, c'est nos opinions, ce ne sont pas des positions de l'April. Je pense que l'April n'a aucune position sur le Bitcoin. Elle est là pour faire la promotion et la défense du logiciel libre et pas pour prendre ce genre de position.
Et je rappellerai que je n'ai pas forcément les mêmes positions que toi.
Effectivement.
Ah, et sur les Bitcoins, moi je pense que les Bitcoins, la technologie blockchain, c'est super intéressant. Et certes, c'est déflationniste et ça va poser, ça pose des problèmes, mais j'ai l'impression que malgré tout, c'est utile. Alors voilà, ça c'est une chose. Quoi qu'il en soit, ça consomme trop d'électricité et pas qu'un peu, ça consomme... Alors t'avais regardé un petit peu les proportions ?
Dans les estimations, on avait parlé la semaine dernière, je crois, et on a revérifié dans les estimations qu'on a trouvées, c'est à peu près 10% de l'Internet mondial.
Donc une paille, quoi.
C'est colossal, voilà. Pour un truc que, personnellement, je trouve très, très contestable dans ses objectifs et ses effets. Mais bon, on va pas revenir abondamment sur le Bitcoin. Il nous faudrait quelqu'un qui a envie de le défendre pour pouvoir débattre un peu sérieusement avec.
Alors, le président du Salvador, ils sont en train de dire que ça va être la monnaie officielle du pays, quand même.
Oui, c'est un article que tu as remonté, donc, qui est intéressant. Donc, le Salvador, comme beaucoup de pays sud-américains, galère avec son économie et avec sa monnaie. Après, bon, je suis pas expert là-dessus, mais on sait que ça peut être compliqué, notamment quand on est en Amérique du Sud et qu'on n'est pas très conciliant avec les États-Unis. On peut se retrouver éventuellement avec de la guerre économique, et ça peut jouer sur les monnaies, effectivement, qui sont dans un système international. Et là, on comprend que dans des circonstances où la monnaie est incontrôlable, où il y a énormément d'inflation et de problèmes de ce type-là, on comprend qu'un État se dise « Ah, passons sur une alternative ». Qui n'est pas contrôlable par des puissances étrangères. Ou
peu contrôlable, en tout cas.
Je ne connais pas bien la situation là-bas, donc du coup, je ne m'avancerai pas trop. Mais en tout cas, le président en question, lui, est motivé pour passer au Bitcoin.
Alors, moi, ce que j'en remarque, c'est que c'est le Bitcoin et pas une autre monnaie qui, pourtant, pourrait exister. Hein, et il y en a plein d'autres qui existent. Il y en a qui sont basés sur le Dogecoin, ce qui est plutôt drôle. Parce que la technologie sous-jacente à tout ça est libre. Ce sont des logiciels qu'on peut reprendre et chacun, toi, moi, n'importe qui, peut faire sa crypto-monnaie. C'est pas fondamentalement impossible, pas forcément facile, mais il y a quelque chose qu'on aura du mal pour détrôner le Bitcoin, c'est sa reconnaissance, sa notoriété. Alors, c'est la première arrivée, donc ils ont eu cet avantage-là et c'est celle qui, pour l'instant, n'a pas été craquée, en tout cas pas officiellement, on est au courant de rien. Donc là, voilà, cette notoriété, cette reconnaissance qui fait que ça fonctionne bien. Et à part se faire piquer parce que l'organisateur, le gestionnaire de ton portefeuille de Bitcoin se barre avec les sous, c'est quelque chose qui est à peu près à l'abri, à peu près, hein, des institutions, des entreprises, des voyous. Mais il faut faire attention à ceux qui font la gestion technique. Ça, par contre, ça reste compliqué.
Il y a un autre truc dans l'actualité que tu as remonté, qui nous faisait penser à cette question de la notoriété, qui est ton ancien président des États-Unis favori.
Oui, alors en tout cas, l'un des meilleurs, celui dont on parle le plus, allez, disons ça comme ça. Effectivement, donc il avait monté une sorte de pseudo-réseau social, parce que, comme on le sait, il s'est fait virer de Twitter, Facebook, Instagram, et peut-être d'autres, hein, je ne sais plus. Mais en gros, il voulait continuer à s'exprimer, continuer à exprimer ce qu'il appelle le grand mensonge, c'est-à-dire le fait qu'il a perdu les élections, donc à tort, et il a créé une sorte de réseau social parallèle, où il a invité tout le monde à venir s'inscrire, à venir s'exprimer à ses côtés.
Voilà, une sorte de blog en réalité.
Oui, oui voilà.
C'était, semble-t-il, très sommaire et ça n'a pas duré longtemps.
Non, alors si j'ai bien compris, il a fait 50 communications dessus. Et là, ils l'ont changé un petit peu d'organisation. C'est devenu un blog à une seule personne, si je comprends bien la chose. Et maintenant, on peut imaginer qu'il va peut-être soit se reporter sur un autre réseau social comme celui dont on avait entendu parler à l'époque, qui était plutôt de droite extrême.
Parleur.
Exactement. Où
oui, mais c'est fermé ce truc-là.
Non. Alors, ça a été fermé parce que Amazon avait retiré ses billes, ils avaient retiré leur serveur, hein, donc ils avaient écrasé le système. Et en plus de ça, des crackers ou des hackers, de gentils hackers, avaient pénétré le système informatique de Parleur et ils avaient récupéré toutes les informations du réseau social. Donc, notamment qui, quoi, quand. Et ça avait été rediffusé à pas mal de monde. Donc, ça avait vraiment fait tâche. Et ensuite, le réseau était tombé parce que les fournisseurs s'étaient barrés. Ils avaient activé des clauses de contrat en lien avec les saloperies qui passaient dessus. Mais ceux qui avaient mis en place Parleur ont remis en place des infrastructures. Ils sont rebasés sur d'autres entreprises et ils ont relancé d'autres choses avec d'autres logiciels, en repartant sur des bases utilisateurs différentes. Et on pourrait imaginer que Trump les rejoigne à tout moment ou même qu'il les coopte. C'est-à-dire qu'il aille les voir et qu'il leur dise « voilà ». vous me faites une Trumposphère avec mon nom, parce qu'il aime bien mettre son nom partout, et grâce à ma notoriété, je vais vous amener du monde, et vous allez voir, on va relancer tout ça, ça va partir du feu de Dieu.
Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que, en dépit du fait qu'énormément de gens le suivent, sa tentative d'aller en solo sur son petit site dans son coin n'a pas fonctionné. Après, on sait que dans son camp, ils ont un peu cette capacité à foirer les trucs et à bâcler le boulot. Ça a sans doute joué, mais n'empêche que même Trump, sur son beau physique et sa notoriété, n'a pas réussi à fédérer ses fans autour de son site.
Alors, une des raisons qu'on peut mettre en avant, c'est que non, il fallait qu'il passe par Twitter et Facebook. Ce sont eux les gardiens de la parole publique, ce sont eux les gardiens de la notoriété.
De fait, les gens vont sur les places publiques. C'est un truc que, par exemple, les youtubeurs qui sont critiques par rapport au système remontent systématiquement en disant « Même si YouTube, c'est de la merde, je ne peux pas exister sans. Quoi que je fasse à l'extérieur, je n'existe pas. Je suis totalement invisible si je suis pas là. » Et ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Il a cette question de notoriété, d'effet de réseau. Une fois qu'on l'a, c'est effectivement difficile d'en sortir, de l'étronner. Alors dans le libre, nous, on utilise un truc qui s'appelle Mastodon, qui est un truc un peu à la Twitter et qui a un peu plus de deux ans.
Non, un peu plus, à mon avis, oui.
Mais a décollé, mais plutôt dans le monde libriste. Et donc, il y a une activité, il y a du monde. Et pour une raison qu'il est difficile de définir, la mayonnaise a pris. Alors qu'il y avait déjà des réseaux libres avant et qui n'ont pas eu cet effet-là.
Alors, on sait qu'effectivement, il y a probablement plein de facteurs qui vont jouer. Facebook, quand ils se sont lancés, en même temps, on a revérifié tout à l'heure, on était un peu étonnés. Il y avait Orkut qui s'était lancé, vraiment à quelques jours près. Et Orkut, c'était un réseau social lui aussi, qui n'était pas si mal. On était inscrit dessus, on l'a utilisé.
Il fallait noter ses amis, moi je ne suis pas resté très longtemps.
c'était des concepts un peu novateurs à l'époque, un peu rigolos. Ouais. Et effectivement, la plateforme a marché. Je crois que c'est au Brésil notamment, ça a explosé, il y avait beaucoup d'utilisateurs. Mais ça n'a pas tenu, donc l'effet réseau, pour une raison qu'on ignore, parce que ça reste un peu flou, toutes les mécaniques qui sont derrière, ça n'a pas tenu, alors que Facebook, lui, a explosé et contient aujourd'hui les profils de milliards d'êtres humains. Donc eux, on peut dire que c'est considérable.
Et dans le logiciel libre, la notoriété est aussi une notion importante, parce que quand quelqu'un contribue à un projet, il se forge une notoriété auprès des communautés, donc c'est pas évidemment aussi connu qu'un Mark Zuckerberg, mais n'empêche que cette personne qui a porté du code, qui a eu des idées, etc., va avoir de la crédibilité dans ses projets. Et cette notoriété, elle est importante, elle peut permettre de motiver des gens. Quand quelqu'un qui a cette notoriété dit « Allez, on va faire ça », il y a des gens qui vont le suivre, des fois il y a des déceptions. Et également, quand la personne va émettre des opinions sur des sujets, effectivement, si elle a derrière du bagage et prouvé la notoriété, sa parole va être écoutée beaucoup plus.
On en parlait la semaine dernière en disant qu'il y avait beaucoup d'éléments qui passaient par le temps de cerveau disponible. Mais là, ça c'est à la suite de notre discussion, j'aurais tendance à dire que la monnaie qu'on échange souvent, c'est une monnaie de reconnaissance entre nous les êtres humains. Et on a besoin de ça, on est des animaux sociaux par excellence. Et donc on a besoin d'être reconnu, on a besoin de savoir que notre parole va porter. Et cette notoriété, c'est de l'argent dans notre réseau social. On a un fonctionnement qui est important et qui va être basé là-dessus.
Effectivement, on peut considérer que la notoriété est une forme de monnaie. Par contre, elle est difficile à échanger. c'est une monnaie qu'on peut pas refiler à quelqu'un.
Et on peut la perdre assez vite, parce que sa connaissance, sa reconnaissance, ça peut aller au cas niveau très rapidement, on dit une bêtise. Ça peut, ou au contraire, parce qu'on dit des bêtises, on peut être reconnu. Enfin, c'est quand même très compliqué. Alors moi, je maîtrise mal. D'ailleurs, je ne suis pas connu outre nous deux. Voilà, j'ai pas une grosse reconnaissance. J'ai peur que ma monnaie de notoriété ne soit pas très vendable, malheureusement.
La mienne non plus, surtout quand je dis du mal des bitcoins, voilà.
Tu prends des risques.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine, Luc.
Salut.
Vote sur ta notoriété.